Haute fréquence, Fabien Unenberger.
Le djihad, un mot qui claque aujourd'hui à nos oreilles comme une détonation et qui évoque des images de terrorisme international. Un mot qui cependant, au travers de l'histoire musulmane, n'a pas toujours eu le sens que lui a conféré Al-Qaïda. Jacques Mourican nous proposera en deuxième partie d'émission l'interview d'un islamologue, Jean-Pierre Filiou, qui s'intéresse précisément aux contours très variables de cette notion de djihad. Mais dans quelques instants, on va plonger dans l'univers de chrétiens très discrets, présents en Suisse romande depuis plus de 150 ans et réputés très rigoristes, avec une lecture de la Bible particulièrement littérale. C'est Jean-Christophe Emery qui nous emmène maintenant à la découverte de ce milieu très hermétique, celui des darbistes. Haute fréquence, bonsoir et bienvenue à vous.
La première fois où j'ai vraiment formulé ma demande à Jean-François que je ne pouvais plus continuer à aller dans ce milieu et que je ne voulais pas continuer à éduquer nos enfants d'après ces principes, il m'a dit « c'est comme si tu m'écrivais une lettre de divorce ». Donc ça a été pour moi un choc absolu, terrible, terrifiant. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'impact de ce cheminement et puis de cette décision. Puis, je dois dire, la rupture a été très douloureuse, qui a fini avec une excommunication où on nous disait qu'on était les fils prodigues. Alors, et je me rends compte que ça me fait encore mal aujourd'hui.
Pas facile de quitter une communauté darbiste, si on en croit le témoignage de Christine. Pas facile parce que ces communautés très discrètes sont aussi des communautés très soudées, qui réclament une adhésion forte sous peine d'excommunication. Ceci mis à part, eh bien, on sait relativement peu de choses sur ces darbistes qui comptent une trentaine de communautés en Suisse romande, des chrétiens discrets, très discrets, presque invisibles, du fait qu'ils n'ont pas d'église, pas de pasteur, pas de paroisse, et qu'on ne connaît même pas le nombre exact de fidèles de cette communauté darbistes. Jean-Christophe Emery, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Alors vous vous êtes penché pour nous sur ces communautés darbistes en Suisse romande, des communautés donc très conservatrices, méfiantes vis-à-vis du progrès, attentives aussi à la tenue, notamment des femmes, des chrétiens à la lecture assez littéraliste de la Bible. Jean-Christophe, si on revient peut-être sur le témoignage qu'on vient d'entendre de cette femme, on a affaire à un mouvement de type sectaire, non ?
Alors effectivement, il a été qualifié comme tel parfois, il emporte certaines caractéristiques, mais c'est un terme qui est très connoté et largement insuffisant pour les décrire. Mmh. En deux mots, il s'agit de communautés de type protestante, issues d'un réveil religieux au XIXe siècle. Elles ne vénèrent pas leur fondateur, pas de gourou donc, mais beaucoup de mystères, comme on l'a dit, à commencer par la manière de les désigner. Aucune d'entre elles ne revendique le terme darbiste et ne l'accepte pas. Ils se présentent comme assemblée ou assemblée de frères ou simplement chrétiens. Pour des raisons de convenance, je vous propose quand même d'utiliser ce terme darbiste ce soir.
D'accord. Et alors d'où vient cette communauté darbiste ?
Alors ils sont présents depuis plus de 150 ans sur le territoire suisse. C'est un mouvement qui est issu d'Angleterre, de la prédication d'un certain John Nelson Darby, un filleul de l'amiral d'ailleurs.
D'accord.
Ces communautés sont très repliées dès l'origine suisse. Sur elles-mêmes, souvent ignorées du grand public. Elles font assez peu parler d'elles, mais dans les milieux réformés ou évangéliques, il n'est pas rare de croiser des anciens darbistes. Certains s'en éloignent assez pacifiquement. Par contre, d'autres, c'est vraiment le séisme, on l'a entendu. Et je vous propose d'écouter ce témoignage complet de Christine Bourgeois, la cinquantaine, qui était éduquée dans ce milieu à Bâle. Elle est issue d'une famille piétiste allemande. Elle a baigné vraiment dans le darbisme depuis des générations. Elle l'a quitté ensemble avec son mari depuis une quinzaine d'années. Année environ. Tout d'abord, elle évoque son éducation plutôt stricte.
Elle était même très stricte, très structurée. Je dirais, il y avait d'une part aussi beaucoup de lumière, mais il y a beaucoup de lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre, dans le sens qu'il y avait une étude de la parole systématique, une connaissance des textes dont je profite encore aujourd'hui. Disons, l'amour de vouloir creuser un texte biblique, ça m'est tout à fait resté. Mais après, il faut voir l'interprétation.
Alors, strict, est-ce qu'on pourrait avoir quelques illustrations pour comprendre un peu ce que ça veut dire, strict ?
Mais déjà, strict au niveau horaire, parce qu'il y avait le culte le dimanche matin, après, il y avait l'école du dimanche, donc on assistait aux deux. Souvent, il y avait encore, l'après-midi, il y avait encore une étude biblique. Le mardi soir, il y avait la réunion de prière. Et en plus, le samedi après-midi, il y avait les classes publiques.
Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir comme ça quelques idées des principaux interdits qui étaient formulés?
Alors, pour les filles, c'était question mode déjà. Il fallait qu'on porte des tabliers quand les autres portaient plus de tabliers. En plus, l'histoire des cheveux, bien sûr, il fallait surtout pas se couper les cheveux. Autrement, on n'avait pas accès à la Sainte Cène. On pouvait pas porter des pantalons jusqu'en 1970 à peu près. Et c'est sûr, les loisirs qui menaient dans le monde, comme on disait, étaient bannis. Moi, j'ai commencé à contourner les lois, c'est peut-être un grand mot, mais à assouplir un peu toute cette rigidité grâce à Jean-François, mon premier mari que j'ai connu tôt, qui lui venait d'une famille équilibrée, épicurien, jouissant de la vie. Donc ça devenait beaucoup plus vivable au niveau familial et échange. On a eu des échanges extraordinaires. Par contre, dans le milieu à Bâle où j'ai vécu mon adolescence, j'ai quand même été marquée par trois suicides qui ont été certainement aussi la suite de cette rigidité. Et ça a été très, très dur parce que c'était un frère du premier banc, comme on dit, et puis deux personnes de ma famille proches.
Qu'est-ce que c'est qu'un frère du premier banc?
Alors, un frère du premier banc, c'est un frère qui est responsable de la communauté. Quand on a su ce drame, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont effondrées. Et aussi, les deux personnes de ma famille proches, bon, une, c'était une histoire d'amour classique. Et puis, parce qu'il ne fallait pas côtoyer, avoir une fréquentation hors du milieu, c'était exclu. Donc, c'était une histoire de Roméo et Juliette qui s'est produite. Et puis, l'autre histoire, c'était une révolution existentielle, disons, une histoire de ne pas pouvoir vivre dans ce cercle, avec ses principes et dans le monde en même temps. Qu'il y avait une espèce de schizophrénie et un dysfonctionnement qui était pas vivable. Ayant vécu ces trois drames pendant mon adolescence, à un moment donné, j'avais vraiment beaucoup de peine à intégrer ce que j'avais appris dans la vie pour pouvoir vivre, pour pouvoir devenir grand, adulte et responsable et pouvoir réfléchir par moi-même. Et puis bon, heureusement, l'école m'a beaucoup aidée. Mais au fait, moi, j'aurais toujours voulu étudier la théologie. On était en plus en face du séminaire de théologie. Et on m'a toujours dit, si tu fais la théologie, tu vas perdre ta foi. Donc, c'était rayé de la carte dès le début, par exemple. Mais ça peut être aussi changé aujourd'hui, mais je sais pas. Mais c'est vrai que cette étroitesse qui est tellement liée à la peur, aussi à la peur d'autrui, à la peur de pas être saint, pur et se souiller au contact des autres, ça c'est absolument insupportable.
Comment s'est passé le fait d'avoir quitté le milieu?
La première fois où j'ai vraiment formulé ma demande à Jean-François que je ne pouvais plus continuer à aller dans ce milieu et que je ne voulais pas continuer à éduquer nos enfants d'après ses principes, il m'a dit « c'est comme si tu m'écrivais une lettre de divorce ». Donc ça a été pour moi un choc absolu, terrible, terrifiant. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'impact de ce cheminement et puis de cette décision. Alors, petit à petit, bon, on s'est redonné du temps, on a refait encore un essai ici à Morges. On a pour finir décidé de faire des cultes de famille sur 2 ans. C'est ce qu'on a fait. Et puis, je dois dire, la rupture a été très, très douloureuse, qui a fini avec une excommunication où on nous disait qu'on était les fils prodigues. Alors, et je me rends compte que ça me fait encore mal aujourd'hui.
Christine Bourgeois, une femme sortie du darbisme, sortie plutôt explosive, on l'a entendu. Jean-Christophe, pour être bien sûr, son mari est sorti en même temps qu'elle, c'est bien le cas.
Oui, alors lui est effectivement aussi issu de ces milieux-là. Ils sont sortis ensemble à l'époque et ont rejoint ensemble une église évangélique. Mmh.
Le mot rigidité, là, est venu de manière assez forte. D'où vient en fait cette rigidité, cette communauté?
Comme souvent, c'est le fondateur qui a imprimé une marque très très profonde. C'est un personnage étonnant, hein, ce John Nelson Darby. Il est né à Londres en 1800, une sorte de génie destiné à devenir avocat, brillant, converti au christianisme christianisme. Il a bifurqué pour la théologie et il est devenu prêtre anglican. Et à la suite de réflexions personnelles, il a développé sa propre théologie, s'est séparé de l'église anglicane pour parcourir la planète et prêcher son message. C'est quelqu'un qui maîtrisait 6 langues. Il a fait ses propres traductions de la Bible en français, en allemand, en anglais. Il a écrit plus de 14 000 pages de théologie. Enfin, je vous propose de découvrir quelques aspects du darbisme et de son fondateur, en compagnie alors de Pierre-André Rossel, lui-même un ancien darbiste qui a quitté le mouvement il y a une 30aine d'années. Il nous dit tout d'abord quelques mots d'explication à propos de ce souci de discrétion propre au darbisme.
Oui, alors c'est une question qui demande un recul dans l'histoire. Et il faut rappeler qu'aux yeux de Darby, l'Église du 1er siècle représentait au fond l'Église idéale, l'Église qui était parfaite, on pouvait le dire, même si déjà au temps des apôtres, on remarquait ici et là des signes de corruption à venir. Au cours des siècles, cette corruption n'a fait que croître. Et lorsque Darby est arrivé au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, elle était à son paroxysme, à tel point que Darby a utilisé l'expression de « ruine », l'Église est en ruine. Son attitude a été alors d'en sortir et de rejeter au fond tout ce qui appartenait à cette Église. On ne parle plus dès lors de structure, d'organisation ou de liturgie, par exemple, ce sont des choses qui appartiennent à ce qui est ancien, à ce qui est corrompu.
Est-ce qu'on peut peut-être juste détailler au fond cette ruine? Quels étaient les éléments qui ont choqué le plus Darby?
Ce qui l'a le plus choqué, c'est la corruption sur le plan moral. Comme c'était un homme qui était d'une intelligence rare, il a sondé les Écritures et il a vu que cette Église ne correspondait plus au modèle de la Bible. Et il s'est appuyé sur quelques textes pour comprendre et pour proclamer que cette Église-là n'avait plus de futur. D'où cette idée, justement, d'en sortir d'abord et puis de créer quelque chose à côté. Ce furent les assemblées de frères. Le terme d'église a été abandonné à ce moment-là. Alors, à partir de là, c'est vrai qu'on remarque un repli sur soi, justement par méfiance. Il veut éviter que, d'une manière ou d'une autre, on retombe dans les ornières du passé. Alors, ça veut dire qu'on vit comme en vase clos. Et on va vivre selon les principes divins reçus au travers de la lecture de la Bible. La doctrine de ce qui touche les derniers temps est quelque chose qui est omniprésent dans l'enseignement de M. Darby. On en parle très très souvent. On est soit dans le passé, soit dans le futur, et on en oublie quelquefois le présent.
Est-ce que cette teinte apocalyptique, elle a continué à marquer le mouvement jusqu'à aujourd'hui?
Ah oui, ça c'est évident, toujours. On vit dans cette attente du retour du Christ. Et cette attente est très forte. Elle est annoncée, elle est proclamée très très souvent. C'est pour ça qu'elle estompe un petit peu la vie présente, ce qui explique un petit peu le désengagement de la vie communautaire dans les affaires sociales ou politiques. On vit actuellement dans un temps de préparation, dans un temps de sanctification pour le futur. C'est pourquoi l'accent est mis beaucoup sur la pureté, sur le sens des responsabilités, sur le témoignage chrétien également.
Une autre chose qui surprend, au fond, dans ces communautés, c'est qu'à la fois, elles se reconnaissent d'une certaine manière entre elles, et puis, elles sont quand même traversées au cours de ces plus de 150 ans d'histoire par un certain nombre de divisions successives.
Oui, c'est un fait. Les divisions ont toujours se sont succédées les unes aux autres pour des motifs parfois mineurs, qu'on jugerait mineurs aujourd'hui. Tout ça dans le but de se préserver de tout mal, de toute déviation. Déjà au temps de Darby, dès son arrivée à Genève, très peu de temps après, il y a eu déjà une première division. Et cela n'a pas arrêté au cours des années.
Il y a un autre élément que j'ai découvert, notamment en entendant des témoignages, c'est que beaucoup de personnes qui ont quitté ces milieux-là, comme c'est votre cas, ont vécu au fond une séparation qui était un traumatisme personnel ou familial, collectif, quand même assez fort. Et ça, c'est à quoi est-ce qu'on peut l'attribuer?
On peut peut-être l'attribuer au regard des autres sur notre façon d'avoir pris ces décisions. Pour la simple raison, c'est que quitter l'Assemblée des Frères peut nous faire passer pour des renégats. Et c'est un jugement qui peut peser très très fort. Ça peut vraiment perturber une personne parce qu'elle peut avoir peut-être l'impression d'avoir perdu son salut. Et puis évidemment, il y a tout le contexte familial aussi qui est là, qui peut aussi être terrible à supporter.
Pierre-André Rossel, un ancien darbiste qui évoquait en votre compagnie, Jean-Christophe Emery, la figure fondatrice de ce mouvement darbiste. Alors, chez lui aussi, on sent, comme chez cette femme qu'on entendait tout à l'heure témoigner, un certain traumatisme lié à la prise de distance avec ce milieu. On parlait aussi de divisions successives en sa compagnie, des divisions successives qui, j'imagine, se sont produites encore récemment.
Absolument. La dernière remonte à, une bonne dizaine d'années. Elle a véritablement coupé le mouvement en deux à l'échelle planétaire. En Suisse romande, par exemple, il y a maintenant environ 16 à 18 assemblées de frères très strictes, qualifiées parfois d'étroits. Et puis autant de groupes dits larges qui évoluent de manière autonome.
Et alors vous avez essayé d'avoir accès à ces différents groupes qui restent relativement fermés.
Alors j'ai essayé de prendre contact avec des groupes les plus fermés, j'ai essuyé un ou deux refus. C'est un milieu qui n'est pas du tout habitué aux médias aussi, il faut bien peut-être le préciser. J'ai eu plus de succès avec une communauté qui s'est clairement détachée alors de cette branche étroite, donc il y a une dizaine d'années. Il s'agit de l'Assemblée chrétienne qui se trouve à la rue des Trois-Rois à Lausanne. Elle a été fondée au début du 20e siècle. Aujourd'hui, elle estime ne plus faire partie de ce milieu darbiste, mais elle en porte encore bien quelques traces.
D'accord, et alors vous allez nous emmener découvrir la manière dont elle célèbre le culte.
Voilà, je vous propose d'être là-bas un dimanche ordinaire, dans ce local, une grande salle, très dépouillée, pas de signes religieux, des bancs disposés en arc de cercle autour d'une table de communion, un écran permettant de projeter des paroles des chants, et nous rejoignons le culte à la fin d'une première partie conduite par les jeunes. Je suis en compagnie de Marc Lacombe, l'un des membres, qui me donne quelques mots d'explication sur ce que je vois. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Il y a donc une habitude, c'est lorsque un homme va à un moment donné prendre la liberté pour prier, parler à Dieu. On pourrait dire sous forme de respect, les uns et les autres se mettent debout, ont la liberté. Mais si quelqu'un veut rester assis, il peut très bien le faire.
Quand vous dites un homme, ça pourrait être une femme aussi ?
Alors c'est vrai que dans le cadre de cette communauté ici, pour le moment, ce sont les hommes qui prennent la parole.
Une des choses qui surprend, c'est le nombre de femmes qui portent un chapeau ou un voile.
Au vu de la lecture du message biblique, c'est vrai qu'on se rend compte que certains textes bibliques incitent plutôt la femme à rester couverte lorsqu'elle se présente devant Dieu. Alors c'est vrai qu'à cette lecture-là, certaines personnes voient dans ce texte quelque chose de particulier, d'important, et vont l'appliquer d'une manière assez littérale. Peut-être qu'ici, ce qu'on peut dire, qu'il y a une certaine liberté, dans le sens où peut-être certaines personnes vont penser que le fait d'être couverte simplement au niveau de la coiffure, cela est suffisant.
Quelqu'un qui prend spontanément la parole, le micro, et qui fait une réflexion sur les paroles du chant que nous avons entendu.
Le moment de culte est un moment non préparé. ce qui fait que les uns et les autres peuvent spontanément exprimer un ressenti, une prière, indiquer un chant, partager une réflexion. La parole n'est pas limitée à certains qui auront peut-être plus de connaissances, plus d'expérience. Au contraire, ce qui est valorisé, c'est plutôt le vécu. Est-ce qu'il y a peut-être un peu l'idée aussi qui est présente que la spontanéité, c'est une sorte de marque de la présence de Dieu? Je pense qu'on peut le voir sous cette forme-là. Peut-être que ce qui est derrière cette idée-là, c'est que Dieu accepte chacun. Dieu est à la portée de tous. Et c'est peut-être ce qui explique le fait que cette spontanéité et liberté est valorisée dans cette communauté.
C'est 2 et 3 du 42-3.
Hommes se dirigent maintenant vers cette table de communion. On arrive au moment où il y a donc le service de la scène. Ce sont les membres de la communauté qui vont pouvoir exprimer une prière. Là, par exemple, on voit un des membres, je pense que c'est un des plus âgés, et c'est lui qui a pris spontanément la parole pour le partage de la scène.
Ça pourrait être n'importe qui. Quel homme qui le ferait?
Oui, tout à fait, oui, tout à fait.
Si ce n'est, là encore, que ce soit un homme.
Voilà, oui, effectivement, jusqu'à maintenant, ça a toujours été un homme. Il y a donc un pain qui a été partagé, mis sur diverses assiettes, et plusieurs personnes se dirigent vers les rangs. Chacun a la liberté de prendre une partie de ce pain.
Les jeunes, les enfants, ils ont le droit aussi?
Alors, en termes de droit, je pense que chacun a le droit. Maintenant, comme il n'y a aucune obligation à cela, on va forcément attendre à ce qu'une personne le demande. En règle générale, les jeunes le demandent à l'âge de... Ça peut être 15 ans, 16 ans, d'autres préfèrent attendre. Il n'y a pas, disons, d'habitude spécifique par rapport à cela. L'important pour la communauté, c'est que les personnes, on pourrait dire, aient la certitude de faire partie de la famille de Dieu. Par exemple, peut-être qu'une personne qui n'a pas cette certitude-là, ou qui est en recherche, ou qui n'a pas de conviction par rapport à cet aspect-là des choses, on va plutôt lui demander de s'abstenir.
Alors, on approche de la fin du culte, il est 11h moins 7 minutes. Alors, le modèle semble évidemment bien rodé, bien huilé. Qu'est-ce qui va déterminer la fin de la rencontre?
Alors, la fin de la rencontre, aujourd'hui par exemple, ça va être le moment de la collecte. Ça signifie qu'il y aura une période d'annonce. Mais la fin de la rencontre peut être aussi, par exemple, un message biblique.
Haute fréquence, nous parlons ce soir de la communauté d'Arbiste et on vient d'entendre votre reportage, Jean-Christophe Emery, au sein de l'Assemblée chrétienne qui se trouve à la rue des Trois-Rois à Lausanne. Alors on l'a compris, ce groupe a pris ses distances par rapport au noyau dur du darbisme. Ce qui pose la question de savoir si beaucoup de choses ont changé dans le culte par rapport à une communauté d'Arbiste, on va dire, traditionnelle.
Alors beaucoup de choses sont en changement. Femmes et hommes peuvent s'asseoir côte à côte, le petit voile n'est plus obligatoire
pour les femmes. Mmh. On a introduit les instruments de musique plutôt que le chant a cappella. Les jeunes ont certains dimanches la possibilité d'animer une première partie avec des chants, des réflexions bibliques et des lectures de textes bibliques. Et puis d'autres éléments comme cet attachement à la spontanéité ou le refus de laisser les femmes s'exprimer sont restés alors elles très proches du modèle d'arbiste pur et dur.
Et les jeunes, alors comment est-ce qu'ils vivent ce changement ?
Alors ceux qui étaient là, évidemment, ils sont restés, donc ils le vivent relativement bien. Si on tient compte qu'ils sont issus pour la plupart de la communauté, c'est donc leur espace de référence, évidemment. À l'issue du culte, certains jeunes ont accepté de répondre à quelques-unes de mes questions et je vous propose un court extrait.
Coraline, et j'ai 18 ans.
Vous-même, vous savez que vous avez, en principe, dans les cultes ici, pas le droit de prendre la parole. Ça vous dérange ?
Quelquefois, j'aimerais bien prendre la parole, c'est vrai. Mais je pense que justement, c'est une église qui est en mouvement, qui se pose beaucoup de questions. Et là, justement, la parole des femmes est en train de se refaire, quoi. On va pas l'avoir tout de suite, ça je sais. Mais je pense que même si on n'a pas le droit de cette parole, on peut toujours être là pour encourager les autres. Et ça va très bien, pour l'instant. J'aimerais bien pouvoir m'exprimer comme les hommes, mais je pense que c'est tout un débat à avoir aussi avec les... Pour pas forcément brusquer. Ça me fait pas mal, en tout cas.
Loïc, 25 ans.
Je vous avais entendu au piano tout à l'heure. On m'a dit que les instruments ici avaient été introduits il y a quelques années.
J'ai participé donc au lancement, donc ça fait maintenant 8 ans, j'irais, quelque chose comme ça. Les premières fois où il y a eu le piano à l'église, en fait, c'est ça qui était étonnant. J'ai eu pas mal d'échos très positifs, en fait. J'espère ne pas m'être imposé en essayant de tout bousculer d'un coup. Mais gentiment, encore aujourd'hui, une vieille dame qui est venue me remercier. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas très contents de ces changements. Bien évidemment, ça pose des problèmes de tradition.
Vous avez des gens qui ont réagi directement auprès de vous ?
Alors, de manière négative, j'ai eu quelques échos. Mais plutôt, personnellement, je l'ai vraiment pris dans l'amour de personnes qui estimaient qu'il fallait peut-être faire jouer moins fort ou des choses comme ça, mais jamais quelque chose de fondamentalement négatif, puisque ça a été une décision d'assemblée que d'introduire le piano, et c'est quelque chose que les gens respectent maintenant.
Le témoignage de deux jeunes issus de cette assemblée chrétienne des Trois-Rois à Lausanne, communauté d'arbistes. Jean-Christophe, est-ce qu'ils se sont confiés facilement ?
Oui, alors j'ai réuni facilement plusieurs jeunes qui se sont livrés comme ça, plutôt à l'aise, plutôt assez libres dans leurs paroles. Mais après coup, alors l'un m'a demandé d'effacer son témoignage, un autre a voulu que je raccourcisse et que je ne retienne qu'une partie. Il y a quand même encore des tiraillements, on sent le malaise parfois entre une liberté revendiquée et puis quelques atavismes encore bien présents.
Et en général, est-ce que la communauté a fait des difficultés pour vous recevoir ?
Non, je dirais en ce qui concerne la communauté, j'étais très bien reçu, avec une volonté évidemment de développer, de dégager une image très positive. Et puis tout de même, une certaine prudence. Les responsables ont voulu me voir avant le reportage. Ils ont aussi demandé à écouter les extraits choisis pour la diffusion. Ils étaient dans cette volonté de montrer un visage ouvert, tout en étant peu familiers avec les médias. Mmh. Et puis bon, la grande difficulté de ces groupes, c'est l'absence de représentants officiels. Dans leur fonctionnement ultra-démocratique, ils doivent tous se consulter pour les décisions. Alors Lausanne, ça c'est aussi une élaboration assez récente, dispose d'un groupe reconnu comme étant le groupe des responsables, mais les responsabilités ne sont pas vraiment encore très très bien définies.
D'accord, et vous avez alors rencontré ces, entre guillemets, si on ose utiliser ce mot, responsables ?
Voilà, je vous propose d'écouter l'un d'eux, Christian Coindet. Je suis tout d'abord revenu avec lui sur cette interdiction pour les femmes de s'exprimer durant le culte.
Oui, c'est évident qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, d'avoir comme ça des femmes qui ne parlent pas dans un groupe est quelque chose qui peut choquer, surtout dans un courant de société où on essaye de nier les différences, je dirais, de niveler les choses en disant de toute façon on doit être égaux pour tout. Notre pratique actuelle est liée à une lecture de la parole de Dieu, donc dans des textes qui sont dans les épîtres de Paul, en Corinthiens en particulier. Par rapport à cette lecture, nous avons la conviction que les femmes, jusque-là, en fait, ne doivent pas s'exprimer dans une réunion d'assemblée. Alors, à l'égard de ces passages aussi, il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de personnes qui se sont penchées sur ces textes ces dernières années. Il y a différentes théories, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous questionne. Mais aujourd'hui, en ce qui me concerne, je vais vous donner mon avis personnel, j'ai l'impression qu'en fait, la position qui consiste à laisser ce fonctionnement-là, avec les hommes qui s'expriment et les femmes qui ne parlent pas en réunion d'assemblée. Ça me paraît être respectueux de quelque chose que la parole de Dieu dit, que je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris, mais en tout cas qui ne me paraît pas incompatible avec un fonctionnement d'une vie chrétienne au quotidien cohérente.
Est-ce que cette pratique pourrait être amenée à changer ici dans la communauté ?
Je pense qu'elle pourrait, c'est quelque chose en tout cas sur quoi on se questionne. Je dirais que je ne me sens pas incohérent en lisant la parole de cette manière maintenant. Je pense qu'en ayant ce type d'attitude, on peut tout à fait respecter la femme dans sa position et dans sa spécificité qui apporte un nombre de choses essentielles au rassemblement.
J'ai entendu ce respect que vous voulez avoir à l'égard du texte biblique. Pour vous, le texte biblique, c'est un texte où chaque injonction, chaque détail du texte doit, autant que faire se peut, être appliqué dans la communauté.
Oui, je crois vraiment que notre but est d'essayer de vivre en fonction de ce que nous comprenons du texte biblique. C'est vrai qu'il y a des fois où nous avons de la peine à comprendre exactement pourquoi les choses sont comme cela, mais je crois à la force du texte biblique qui est la parole de Dieu, et que si cette injonction est dans la parole, c'est pas pour rien, mais elle est aussi là pour nous mettre en tension.
Pour vous, il y a une diversité qui est, qu'est-ce qu'il faut dire, légitime dans la manière de lire et d'interpréter le texte biblique.
Oui, je crois que le texte biblique est quelque chose qui est resté quelque chose de permanent au cours des siècles, mais qui a à chaque fois touché les hommes et les femmes à différentes époques en fonction du contexte dans lequel ils le lisaient. Et il se trouve qu'actuellement, dans le contexte dans lequel moi je le lis, ce texte me touche d'une certaine manière, mais j'arrive à respecter le fait que la personne en face de moi ne le perçoive pas de la même manière. Il y a évidemment des choses sur lesquelles il me paraît essentiel d'être d'accord, des messages de base sur le fait que le salut n'est acquérable que par la foi dans le sang de Christ, qu'on doit pouvoir invoquer Jésus-Christ comme son sauveur personnel.
Donc la confession de foi de l'Église primitive.
Ça, pour moi, ça c'est évidemment quelque chose, d'intangible. Puis ensuite, il y a les autres choses qui viennent autour, si vous voulez, sur peut-être la vie chrétienne au quotidien, qui elles, alors, sont propres, disons, à des perceptions différentes, je veux dire.
Christian Coindet, un des responsables de l'Assemblée chrétienne des Trois-Rois à Lausanne. Alors on sait que les darbistes sont très méfiants vis-à-vis de tout ce qui est institutionnel, ce qui pose la question de savoir, face aux autres églises, comment est-ce qu'ils les considèrent en général, catholiques, protestants ou autres ?
Alors vraisemblablement, toujours selon ce statut comme quoi l'église est corrompue et donc qu'il faut s'en retirer et s'en méfier. Pas de dialogue, pas d'implication. Par contre, ceux qui ont quitté, les dissidents, comme c'est le cas du groupe de Lausanne, eux, ils évoluent prudemment et entretiennent petit à petit des liens avec d'autres églises évangéliques. D'ailleurs, et parfois des églises réformées, d'ailleurs, ils forment un petit peu le fonds de commerce des évangéliques.
D'accord. Et sur le plan démographique, puisqu'on entendait là qu'il y avait quand même pas mal de scissions ces dernières années, comment est-ce que ça évolue ? Est-ce que ce sont des communautés qui s'évaporent petit à petit ?
Alors, là aussi, on n'a pas de chiffres précis, donc c'est difficile à en faire une véritable estimation. Vraisemblablement, c'est des communautés qui diminuent, mais c'est des familles assez nombreuses, donc ça repeuple un peu les communautés. Passablement de jeunes quittent parce que trouvent le milieu un peu trop étroit. Il y a ces scissions successives, mais au fond, le mouvement continue à se maintenir avec une solidité quand même toujours présente.
Et ceux qui partent, dans le fond, où est-ce qu'ils vont ?
Alors, bon nombre d'entre eux vont peupler les églises évangéliques un peu plus classiques, parfois des églises réformées. On en trouve donc assez régulièrement qui sont sorties ou alors carrément radicalement sorties du christianisme.
D'accord, merci beaucoup Jean-Christophe Emery pour cette enquête sur les darbistes, les différentes communautés darbistes. On va laisser notre numéro de téléphone si vous souhaitez réagir à ce que vous venez d'entendre. C'est le 021 318 60 70. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, il y a toujours un répondeur qui prendra avec plaisir vos différents messages. Et puis il y a une adresse internet sur laquelle vous pouvez aussi trouver des informations complémentaires. L'adresse a un tout petit peu changé, elle est plus simple puisqu'il s'agit désormais de religion.rsr.ch.
Haute fréquence, les petites histoires des religions.
Et on va se pencher en deuxième partie d'Haute Fréquence sur un mot qui a fait beaucoup couler d'encre ces dernières années, mais aussi beaucoup de sang. Il s'agit du mot djihad. Djihad, un mot qui renvoie à Al-Qaïda, à Ben Laden et à tous ces séides poseurs de bombes qui se réfèrent à Allah pour semer la terreur de par le monde. Cependant, et on ne le sait sans doute pas vraiment en dehors du monde de l'islam, le mot djihad est l'objet d'une formidable bataille idéologique entre musulmans. Des musulmans qui ne sont pas, et de loin pas, tous d'accord avec la compréhension très extensive qu'Al-Qaïda fait de ce mot, devenu pour elle synonyme de guerre globale contre l'Occident et contre les États-Unis en particulier. Alors ce qu'on vous propose ce soir, c'est de revenir sur les différentes compréhensions que les musulmans ont de ce mot « djihad ». Et on va le faire en compagnie de Jean-Pierre Filliou, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris. Jean-Pierre Filliou, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les frontières du djihad », qui montre à la fois combien ce concept de djihad est ancien en islam, mais aussi combien il est exagéré d'en faire une caractéristique essentielle de cet islam. C'est un entretien signé Jacques Mourican.
Le djihad signifie littéralement en arabe l'effort déterminé en vue d'un but. La dimension militaire n'est pas induite par le concept lui-même, mais par la pratique qui a été faite du djihad dans les premiers temps de l'islam et très directement quand le prophète Mohammed luttait contre sa tribu d'origine, encore à la Mecque, et lui était basé à Médine et il menait contre eux des batailles qui formeront l'épopée prophétique du djihad. Et à partir de ce djihad fondateur, qui est militaire, se sont développés d'autres djihads que Mohammed a mis en avant, le djihad spirituel, qu'il appelle d'ailleurs le grand djihad, par opposition au djihad militaire qui n'est qu'un petit djihad, donc il y a une moindre importance du point de vue de la foi.
Je vous demande, pardon, djihad spirituel, qu'est-ce à dire ?
C'est qu'en fait, le djihad dans le Coran signifie donc cet effort, dans tous les sens du mot effort, pour que le fidèle respecte les préceptes de sa religion. Il peut être matériel, moral, financier, toute forme d'assistance donnée par le musulman. Et au retour de sa dernière campagne militaire, un peu en forme de conclusion de toute sa pratique comme chef militaire, Mohammed a fait la distinction entre le petit djihad militaire et le grand djihad contre les forces du mal, qui menacent l'islam, mais surtout les forces du mal à l'intérieur de chaque croyant. C'est donc ce grand djihad que les mystiques de l'islam, les soufis et tous les grands adeptes de la méditation vont cultiver au cours des siècles.
Mais il faut quand même dire que c'est structurant pour l'islam, du moins c'est l'impression que j'en ai eue, car dans les années qui suivent l'apparition de Mahomet, sa prédication, on ne va cesser de voir des guerriers à cheval, et ce, pendant des décennies et des décennies. Ce qui fait que le concept prend, j'imagine, une importance très structurante dans l'islam.
Effectivement, le premier siècle de l'islam est un siècle d'expansion que l'on voit avec recul comme continu, mais bon, il y a eu des phases actives et des phases plus maîtrisées. Et au bout d'un siècle, c'est grâce au djihad que l'islam s'étend des Pyrénées jusqu'à l'Indus. C'est donc une expansion formidable qui s'est faite largement par les armes, même si la conversion ou les négociations ont ici ou là pu jouer. Ce qui se passe, c'est que donc ce djihad, qui fut un djihad offensif, ne va pas se prolonger parce que cette expansion ne pouvait pas être indéfinie. Donc les frontières du djihad vont se stabiliser et on va voir apparaître des terres intermédiaires qui ne sont pas terres de l'islam, qui ne sont pas terres de guerre, qui sont des terres de pacte, des terres de conciliation où la guerre et le djihad ne sont plus à l'ordre du jour. Et dans un deuxième temps, l'islam va être menacé sur les terres qu'il avait alors conquises, que ce soit en Espagne durant tous les siècles de la Reconquista, ou que ce soit au Proche-Orient par les croisades. Et à ce moment-là, on a un djihad défensif pour protéger les terres d'islam contre l'agression extérieure. Et ce djihad défensif va alimenter les références, les symboles et la rhétorique, beaucoup plus tard, des luttes anticoloniales, que ce soit Abdelkader en Algérie ou que ce soit l'imam Chamil dans le Caucase, donc au XIXe siècle.
Alors, on a coutume de nous présenter les croisades comme un moment d'affrontement frontal, si je puis dire, entre quelque sorte deux djihads, un qui mérite son nom puisqu'il est en effet musulman, et puis d'autre part un djihad chrétien, ce qui est évidemment un contresens, mais enfin c'est un jeu de mots. Et vous nous dites, oui, mais enfin c'est pas si simple, parce qu'au fond, ces différents chefs de guerre de part et d'autre se sont entendus, ont passé des compromis, enfin en quelque sorte, le temps n'a pas toujours été à la bataille.
Absolument. Les croisades s'étendent sur deux siècles. Pendant le premier demi-siècle, de 1095 au milieu du XIIe siècle, les croisés rencontrent au fond fort peu de résistance et nouent des accords locaux avec toute une série de roitelets plus ou moins autonomes. Et d'ailleurs, on voit des batailles où des chrétiens et des musulmans côte à côte combattent des chrétiens et des musulmans côte à côte. Tout change en fait avec deux grandes personnalités du djihad classique, Noureddin, qui le premier renverse la tendance en reprenant la ville d'Édesse, la ville actuelle d'Urfa en Turquie, et donc en repoussant un bastion croisé, et puis surtout Saladin, Salahuddin, qui reprend Jérusalem à la fin du XIIe siècle. Et après, on a le dernier siècle, où il y a en fait une coexistence entre les principautés croisées sur le littoral levantin et l'arrière-pays, qui les tolère tout à fait. Il y a même des accords qui sont passés pour que les croisés puissent effectuer le pèlerinage à Jérusalem sereinement. Et c'est donc une troisième phase, l'émergence d'une dynastie en Égypte, une dynastie d'esclaves convertis, les Mamelouks, qui va sonner le glas de la présence résiduelle des croisés au Proche-Orient.
Il y a tout un temps de votre récit, Jean-Pierre Filiu, Les frontières du djihad, où vous nous dépeignez donc ce djihad, en quelque sorte, derrière des chefs que nous pourrions peut-être un peu sommairement appeler des chefs d'État ou des grands chefs de guerre. Et puis vous nous dites, ben, il y a un moment où, au fond, en quelque sorte, les chefs ont été un peu indignes et le soulèvement est venu par le bas. C'est le moment confrérique. C'est la figure, par exemple, d'Abdelkader, dont je rappelle que c'est un de ceux qui combattra les Français. Quel est le rôle de ces confréries ?
Les confréries structurent très profondément la société islamique. Les plus importantes sont connues, la Naqshbandiya en Asie centrale et au Proche-Orient, la Qadiriya dans la même aire géographique mais aussi au Maghreb, la Chaziliya autour de l'Égypte. Et dans le tissu urbain, d'une part, elles font un peu office d'ordre pour les professions les plus nobles, les artisans. Les souks sont structurés par les confréries. Dans les campagnes, elles permettent aux tribus et à certains chefs de tribus d'acquérir un statut moral et social élevé par soit la pratique d'une charité exemplaire, soit la définition d'un calendrier mystique autour duquel la vie est ordonnée. Alors ce qui se passe au XIXe siècle, c'est certes les chefs n'ont pas forcément été à la hauteur, mais c'est surtout que l'Empire ottoman était trop étendu pour pouvoir défendre effectivement les peuples musulmans face à la puissante et multiforme expansion coloniale. Donc les peuples se sont un peu pris en main et ce sont des figures confrériques, donc Abdelkader en Algérie à partir de 1832, l'imam Chamil dans le Caucase quelques années plus tard, qui vont se dresser face à l'expansion coloniale et mobiliser comme leaders charismatiques les populations contre cette agression étrangère.
Alors évidemment, je ne résiste pas à vous poser la question par un anachronisme que j'assume totalement, mais dans quelle mesure une organisation de type Al-Qaïda emprunte à ce modèle ? Parce que on a un peu le sentiment aussi que du point de vue de la typologie, on est dans une rébellion des profondeurs, pas dans une rébellion, si je puis dire, des grands chefs.
Toute la thèse de mon livre et ma conviction profonde est que Al-Qaïda, qui signifie la base en arabe, n'a justement pas de base. Et heureusement, on n'a pas de base. N'a de base ni populaire, ni confessionnelle, ni ethnique, ni sociale. Mais qu'elle donne en permanence l'illusion d'avoir cette base, soit par son ubiquité sur Internet, soit par des processus de prédation à l'encontre de mouvements qui, eux, ont des bases, qui, eux, s'inscrivent dans la tradition soit d'un djihad anticolonial, soit de lutte populaire très profonde, et qu'elle essaye de s'accaparer ces territoires, ces causes, ces populations, et de les combattre pied à pied. Donc Al-Qaïda me paraît beaucoup plus superficielle par rapport à la réalité islamique contemporaine, mais joue sur des effets d'écho, sur des effets d'illusion, et surtout sur les amalgames. Le plus grand service qu'on peut rendre à Al-Qaïda, et donc le plus grand dommage qu'on peut causer aux musulmans, c'est de mettre tout le monde dans le même paquet et de faire qu'Al-Qaïda et d'autres formes d'expression ou de lutte musulmane sont assimilées.
Alors précisément, pour bien clarifier les choses, reprenons des catégories que vous avez d'ailleurs déjà présentées, mais redites-nous le clivage que vous faites entre les différentes formes de djihad, parce que ça représente quand même différents moments historiques en quelque sorte.
Je considère en effet qu'il y a un djihad qui s'inscrit dans l'histoire de l'islam, donc il y a près d'un millénaire et demi de tradition derrière lui, qui est aujourd'hui un djihad fondamentalement défensif, qui s'appuie sur une forme de droit de la guerre islamique, et notamment sur la prohibition absolue de l'élimination volontaire de civils. Et ce djihad défensif, vu l'évolution contemporaine des pays musulmans, s'inscrit désormais dans un cadre national, dans un cadre territorial, qui fait que, par exemple, quand les moujahidines afghans luttent pendant 10 ans contre l'occupation soviétique de leur pays de 1979 à 1989, leur combat se déroule rigoureusement dans les frontières de l'Afghanistan moderne et il n'y a pas d'action menée en territoire soviétique ou au-delà de la Moudaria. Le djihad que je qualifie après beaucoup d'autres de global, le djihad offensif, qui s'incarne dans l'organisation Al-Qaïda, est une création tout à fait récente, un peu plus d'une dizaine d'années, pas plus. Et c'est une rupture radicale avec la tradition islamique dès les premiers temps de ce djihad global, car il appelle tous les musulmans où qu'ils se trouvent à frapper tous les Américains où qu'ils se trouvent, ou tous les alliés des Américains où qu'ils se trouvent. Donc on n'a plus du tout un territoire, on n'a plus du tout un peuple qui est concerné, c'est chaque musulman qui est sommé par une organisation de type totalitaire de tuer, en fait, l'Américain le plus proche de lui ou l'ami des Américains le plus proche de lui. Donc on sort totalement de la logique du djihad classique et de fait, les deux formes de djihad vont presque partout se retrouver en conflit ouvert et parfois inexpiable.
Jean-Pierre Filiou, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialiste de la question du djihad. Il était au micro de Jacques Mourican. Jean-Pierre Filiou qui vient publier « Les frontières du djihad » aux éditions Fayard, un ouvrage dont vous trouverez les références sur notre site internet religion.rsr.ch ou que vous pouvez également nous demander par téléphone au 021 318 60 70. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de Haute Fréquence, réalisée pour aujourd'hui par Jean-Philippe Zvalen, avec l'aide d'Isabelle Barthes en régie, musique Laurent Pavia, les sujets étaient de Jean-Christophe Emery et de Jacques Mourican. Une très bonne suite de soirée, il sera 21h dans quelques secondes, donc les informations, puis ce sera le meilleur des mondes en compagnie d'Annick Schuller.
RSR, Yannick Leblanc.